France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, je reçois Christine Murillo pour son spectacle Pauline et Carton. Une évocation de Pauline Carton, cette merveilleuse figure du théâtre et du cinéma, amie de Sacha Guitry qui joua toute sa vie les soubrettes, mais vivait dans des hôtels chics et chanta quelques opérettes. Une occasion aussi d'évoquer la carrière de Christine Murillo, de la Comédie française à la Scala, en passant par La Mouette à l'Odéon, La Mouche au Bouffe du Nord, Le Coup du Parapluie de Gérard Houry et le drôlatique Dictionnaire des Tracas. Christine Murillo est aujourd'hui mon invitée, en duo avec Pauline Carton.
L'amour, ce fruit défendu, vous est donc inconnu. Ah, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrape, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font entretenir, je veux bien essayer.
Ah, viens, souffle les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Ah, merci, je m'éblouis, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mépris, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout en sa boîte, je te donne mon roi, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais.
Bonjour Christine Murillo.
Mais bonjour Benoît.
J'étais content que vous fredonniez avec moi cette chanson que j'adore, les auditeurs le savent. Et au fond, beaucoup de gens peut-être ne connaissent guère aujourd'hui de Pauline Carton, d'ailleurs que ce refrain qui a quand même un peu traversé le temps.
Ah, les gens connaissent les palétuviers.
C'est vrai.
Ah oui. Pauline Carton égale palétuvier.
Égale palétuvier rose. Oui. Voilà. Et en tout cas, voilà, bon, au moins il en reste ça. Et à part les passionnés comme moi, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu oubliée, cette chère Pauline. Alors, on va évidemment aujourd'hui parler de vous, Christine Murillo, mais aussi de votre spectacle Pauline et Carton. Et dites-moi tout simplement, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire et à jouer, donc avec beaucoup de succès à la Scala, un spectacle autour de Pauline Carton?
Eh bien, ça va me donner le plaisir de rendre à César ce qui est à César. Tout a commencé par le Festival de la Correspondance à Grignan.
Oui.
Les lettres de Pauline, donc c'est de la correspondance. Virginie Berling avait fait un premier choix de lettres et avait demandé, enfin le festival avait demandé à Charles Torgman, mon merveilleux metteur en scène, de faire la lecture à Grignan. Et puis quand Frédéric Biessy de la Scala a entendu parler de cette lecture qui avait eu beaucoup de succès, eh bien il a proposé qu'on en fasse un spectacle. Alors on s'est bien penché sur les livres de Pauline Carton.
Il y avait donc aussi des lettres à l'origine.
Ah ben il y avait quelques lettres. Alors elles sont certainement à la Bibliothèque nationale, mais je crois que Virginie Berling les avait trouvées aussi dans le livre de Georges Debeau qui a accompagné Pauline Carton dans les dernières années de sa vie. Ah. Donc il y avait beaucoup de lettres, mais comme c'était beaucoup de lettres à son amoureux voilà. son unique
Elle
amoureux.
Elle a eu un unique amoureux toute
voilà,
sa vie.
Voilà, un poète jeune voix, Jean Violette. Mais il y avait beaucoup « Mon poupounet, je t'aime, je te prends ». Et puis, il y avait les lettres à Sacha Guitry. Mais pour le spectacle, il fallait absolument mettre des chansons. Voilà. Il fallait absolument reprendre des anecdotes de ses tournées, de son amour du théâtre.
Mais avant de découvrir ces lettres et que, voilà, que les circonstances vous conduisent à monter ce spectacle, qui, je le redis, a beaucoup de succès, vous vous intéressiez à Pauline Carton ? Vous l'aviez vue comme tout le monde au cinéma ou pas plus que ça ?
Je l'aimais beaucoup.
Ah, beaucoup déjà.
Oui. Tous ces films en noir et blanc de Sacha Guitry et autres, parce qu'elle n'a pas tourné qu'avec Sacha Guitry, c'est un vrai régal. Pendant que j'y suis, avant que j'oublie, parce que je m'en veux après, le spectacle est devenu aussi un spectacle parce que c'est pas une grosse tranche de raconta de l'époque, c'est aussi musclé par des éclairages de Christian Pinault, et ça n'a l'air de rien, mais c'est mieux que une lecture de texte d'une dame qui a été merveilleuse au cinéma comme au théâtre. C'est vraiment un spectacle.
C'est une fantaisie personnelle autour de Pauline Carton, on peut dire.
C'est du Pauline Carton de A jusqu'à Z, mettons de A jusqu'à Y, mais c'est vraiment un spectacle. C'est comme si Pauline Carton venait, était là et relisait ses mémoires avec ses trous de mémoire et avec sa fantaisie.
Sa personnalité extraordinaire sur laquelle
question. Est-ce que je m'intéressais à Pauline Carton ? J'avais lu Les théâtres de Carton, son premier livre que tous les comédiens doivent lire.
Alors ça a tellement de succès d'ailleurs que je ne connaissais pas, c'est quoi le prix du Brigadier ?
Le prix du Brigadier, ça, c'est même
un grand prix théâtral, apparemment.
Oui, c'est bien avant les Molières. Et c'est un prix qui est...
Vous avez eu plein de Molières déjà, mais le prix du Brigadier, c'était pour Pauline.
Oui, c'est une cerise sur le gâteau. Et je dois dire que je suis très fière d'avoir ce Brigadier 2023 parce qu'il récompense d'abord un travail de groupe merveilleux, parce que vraiment, on a fait une route enchantée d'un spectacle, de A jusqu'à Z. Ouais. C'est décidément de A jusqu'à Z, me plaît beaucoup comme expression. ça a été une route enchantée, mais d'être fêté par ses pairs pour un bon travail d'adaptation et de jeu, c'est très réconfortant.
Très réconfortant. Alors, on va revenir, donc, je le disais, à Pauline Carton. On va parler de vous également, Christine Murillo, parce que vous avez une longue et riche carrière de la comédie française au théâtre privé, en passant par le cinéma, et puis une famille d'artistes également. Alors, justement, tiens, remontons un petit peu, je crois, dans votre plus tendre souvenir avec ce petit air extrait de La damnation de Faust.
Une puce gentille chez un prince se logeait, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure par son tailleur un jour, lui fit prendre mesure pour un habit de cour. L'insecte plein de joie, dès qu'il se vit parer, corps de velours de soie et de croix décorée, qui venir de province, ses frères et ses sœurs, qui par ordre du prince devinrent un grand seigneur. Mais ce qui fut bien pire, c'est que les gens de cour, sans en oser rien dire, se grattaient tout le jour. Cruelle politique, peignant leur destin, et dès qu'une nous pique, écrasons la souveraine. Écrasons la souveraine.
L'excellent Gabriel Baquier dans Une puce gentille, c'est La damnation de Faust. Curieusement d'ailleurs, Christine Murillo, c'est un morceau qu'on vous passait pour vous endormir. C'est pourtant pas tellement une berceuse.
Maman qui était à l'opéra, qui était chorégraphe à l'opéra après avoir été dans l'école de danse jusqu'à sujet, nous berçait avec ça pour nous endormir.
Pour vous endormir.
Oui. Donc je ne dors pas, mais c'est des bons souvenirs qui me reviennent.
Voilà, vous avez, je ne vais pas dire grandi à l'opéra, opéra, mais presque. Votre mère y jouait vraiment un rôle important. Elle était entrée au ballet en 1930 et elle est devenue maîtresse de ballet, c'est ça, de l'opéra.
Absolument.
Sous la direction de Serge Liffard.
Quand elle m'a eu, elle a un peu arrêté de danser et elle est devenue l'assistante de Serge Liffard. Et puis, elle a été maîtresse de ballet, chorégraphe. Puis après, quand elle a quitté l'opéra, elle a été inspectrice de la danse. Enfin bon.
C'était Léon Maille. Dans le monde de la danse, on connaît bien son nom. Et donc, j'exagère quand je dis que vous avez un peu grandi à l'opéra.
Oui, aussi à la Comédie Française, puisque en plus, elle faisait les divertissements. Et puis bon, je baignais un peu dans la Comédie
Française.
Votre
père était aussi à la Comédie Française.
Voilà. Donc oui, la Comédie Française. L'opéra, un tout petit peu moins, parce que c'est quand même une grande maison, même si on attendait maman à la sortie chez Ferrari. le gardien s'appelait Ferrari. Mais je passe devant l'opéra comme s'il m'appartenait et je passe devant la Comédie Française comme si c'était ma maison, même après de nombreux lustres.
Donc, enfant de la balle, la question s'est pas posée. Celle de votre destinée, vous feriez comme vos parents.
Si elle s'est posée justement pour ne pas vouloir le faire, alors j'ai quand même fait une route de traverse en essayant d'être vétérinaire pendant plus de 3 ans à la sortie du bac. Mais bon, c'est revenu comme un boomerang et puis bon, voilà quoi.
Je reviens à Léon Maille et à l'opéra. Vous avez connu et relativement bien, si je ne me trompe pas, Serge Liffard, justement, ce très très grand maître de ballet venu de chez Diaghilev.
Absolument. D'ailleurs, si je m'appelle Murillo, c'est un peu à cause de lui, parce que quand je l'ai vu à la maison, évidemment, il rendait visite à maman, ils avaient des choses à faire, puisqu'il y avait l'université de la danse, enfin bref, ils étaient en plein là-dedans. Et quand il m'a vu, au moment où justement je cherchais à faire du théâtre, et il m'a vu, il fait « Oh là là, Christine, on dirait un Goya. » Alors, je me suis dit, j'avais déjà en tête de m'appeler Murillo, je me suis dit,
le peintre espagnol, voilà. Murillo,
donc je me suis dit, même si maman me disait, pourquoi Murillo, tu parles pas espagnol, et je me suis dit, oui, mais si Serge Liffard dit que je ressemble à un Goya, allez hop, vendu pour Murillo.
Il était même un peu votre parrain, non ?
C'était mon parrain, mais enfin, il y a des parrains qui pensent aux anniversaires et qui sont là tout le temps.
Il n'en faisait pas partie.
Moi, je le regardais plutôt comme une étoile, magnifique comme il était, mais c'était plus honorifique et je garde cet honneur au plus profond de mon cœur.
Alors, en tout cas, vous m'avez fait plaisir quand on bavardait un petit peu avant l'émission, parce que moi, j'ai une grande passion pour un ballet un peu oublié d'Édouard Lalo qui s'appelle Namouna.
Oui.
Et vous avez un grand goût justement qui vous vient de votre enfance pour un ballet qui s'appelle Suite en blanc de Liffard et qui est sur la musique de Namouna. Vous l'avez vu donc Suite en blanc à l'opéra à l'époque ?
Bien sûr, non seulement je l'ai vu à l'opéra, mais je l'ai vu surtout. Maman faisait aussi des galas où nous vendions les programmes avec ma sœur Catherine Salvia qui est aussi.
Alors
il
faut dire qui est votre sœur aînée, hein. Voilà.
Absolument. Elle était à la Comédie Française. Maintenant elle est sociétaire honoraire. Et on allait vendre les programmes de Suite en blanc que maman avait monté avec les futures étoiles d'après. Mais à cette époque-là, il y avait Patrice Barr, il y avait Francesca Zumbo, et on voyait Suite en blanc, on a vu ça, mais je sais pas, 10, 20 fois. Et j'ai un amour pour cette musique, évidemment, mêlée de tous ces souvenirs pratiques, mais j'adore, je le vois quand je l'entends.
Alors, vous y référez même encore aujourd'hui? La sieste.
Je peux vous le chanter, je vous éviterai ça. Mais la sieste ou la cigarette, c'est inoubliable.
Justement, vous faites plaisir. On va écouter la valse de la cigarette.
Ah.
Thank you.
La valse de la cigarette d'Édouard Lalot, extrait du magnifique ballet Namouna, que plus personne ne connaît, sauf mon invité, Christine.
Je vais me remettre à fumer,
Murillo,
c'est pas possible, c'est magnifique.
Qui, jeune fille, allait voir la suite en blanc à l'opéra sur cette musique et là, dans la chorégraphie de Serge Giffard, où tout le monde était en blanc, j'imagine.
Tout est en blanc, absolument.
Tout est en blanc dans la suite en blanc, comme il se doit. Et puis voilà, vous avez grandi, vous auriez pu être vétérinaire, ça n'a pas été le cas.
Les animaux me remercient encore aujourd'hui.
Vous avez fait un peu de café-théâtre aussi.
Ah, tout à fait. Quand j'ai décidé d'être comédienne, je suis allée à l'école de chez Jean Périmoni, que je remercierai toute ma vie de m'avoir bien mise sur des bons rails. Et lui-même m'a engagée à jouer au café-théâtre Le Fanal, où on a joué une pièce d'Éric Westphal et puis après une pièce de Jean Anouilh.
Ah oui.
Donc j'ai fait du café-théâtre à peu près en même temps que j'étais au conservatoire.
Oui, voilà, oui. Et donc c'était bien d'avoir la double formation, si j'ose dire.
Oui, c'était du café-théâtre, mais le café-théâtre de l'époque, c'était des petites pièces de théâtre,
oui,
c'était
oui,
pas
ça.
Du stand-up. Hein.
Oui, oui. Et alors, en tout cas, finalement, c'était la destinée un peu familiale, vous êtes entré à la Comédie Française.
C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du théâtre sans doute pour des pas très bonnes raisons, genre je voulais faire l'imbécile, ou je voulais être drôle, ou je sais pas. J'ai rencontré Jean Périmoni, Louis Seignier, Jean-Paul Roussillon et Antoine Vitesse qui m'ont appris à savoir pourquoi il fallait être comédien et maintenant j'essaye encore.
Oui, votre sœur y était entrée avant vous, hein, d'ailleurs.
Ah, mais je peux
elle
bien
était déjà
tout
là.
Comme elle.
En tout cas, vous avez été marqué par les grandes figures qu'on connaît encore de la Comédie Française d'une ou deux générations avant. Vous avez cité Seignier, mais on pourrait en citer d'autres.
Louis Seignier, déjà formidable. Extraordinaire comme professeur, mais avoir joué. Bon, et quand moi je suis arrivée, il n'y était plus, mais Catherine, ma sœur, a joué avec lui,
bien sûr.
Et puis moi, de mon temps, c'est toujours dans ma tête Michel Aumont, c'est Jean-Luc Boutet, c'est Michel Duchaussois, enfin, et puis des femmes, Geneviève Cazil, que j'embrasse et qui est toujours aussi merveilleuse, Catherine Yégel, que j'embrasse et qui est toujours aussi merveilleuse.
Bienvenue dans cette émission d'ailleurs.
Enfin, bref,
vous étiez un peu quand même cantonné dans les rôles de soubrette.
Alors, c'est un peu ce que mon physique et mon dynamisme laissaient entendre, mais à partir du moment où j'ai rencontré Jean-Pierre Vincent au Français, qui m'a donné le rôle de Marie dans Les Corbeaux,
oui.
C'est là où les gens ont enfin compris que je n'aimais pas trop les rôles de soubrette.
Ah, n'empêche que
à l'envers de Pauline Carton.
Voilà, j'allais dire, ça vous prédisposait.
Et en fait, je n'aime pas ça. J'entends un texte de soubrette, j'admire celles qui savent le rendre, mais moi je sais que je le prends pas par le bon bout. Voilà.
Voilà. En tout cas, vous avez fait donc vos débuts au Café Théâtre, à la Comédie Française, dans des rôles de plus en plus variés, et puis aussi assez vite finalement, quand même au cinéma avec Le Coup du Parapluie.
Alors c'est pas avec Le Coup du Parapluie.
Enfin oui, il y a d'abord eu Colline Serrault.
Oui, parce que c'est Colline qui m'a mise en avant tout de suite avec le Pourquoi pas. Il y avait Samy Fray et Mario Gonzalez et Nicole Jamet, c'était et Michel Aumont. Mais ça, c'était un film inoubliable et qui n'a pas pris une ride. Il passe jamais, je ne sais pas pourquoi. Il est absolument merveilleux. Et alors après, j'ai fait assez peu de cinéma. J'ai eu des rôles assez importants au début. Et puis après, j'ai eu des rôles tellement merveilleux à la Comédie Française que j'ai pas su...
Mais Le Coup du Parapluie avec Houry, c'était quand même quelque chose d'important. Oh bah parce que c'est un film à grand
c'est
succès.
Mon Hollywood.
Voilà. C'est votre Hollywood.
Oh oui, ça se tournait dans un studio. On n'a pas mis les pieds dans le sud et tout le monde croit absolument que c'était... Enfin, moi, j'allais dans le studio, j'avais l'impression d'être à Hollywood. Oui.
Alors, justement, on a parlé donc de la Comédie Française, la Maison de Molière, où la musique a toujours eu une place importante. D'ailleurs, vous chantiez parfois dans certains spectacles.
Absolument.
Oui.
J'avais pas tellement de complexes, parce que comme c'est pas mon métier, je me suis dit, écoutez, on me l'a demandé, je le fais. Oh, j'ai chanté dans deux ou trois trucs où personne ne s'en souvient.
Voilà. Et puis, il y a toujours, évidemment, à la Comédie Française, il y a le bourgeois gentilhomme, il y a la cérémonie turque. Mais alors, j'ai choisi, on dira après pourquoi, une autre musique qui est liée à Molière, là c'est celle de Charpentier,
oui.
La musique du malade imaginaire dirigée, je crois que vous le connaissez bien, par William Christie.
Yeah.
Le malade imaginaire de Molière et Charpentier, dirigé par William Christie. Et je le disais, oui, vous connaissez bien cette production, Christine Murillo, parce que vous avez joué vous-même dans ce spectacle oui. en 1990 avec William Christie et le metteur en scène Jean-Marie Villégier.
Donc c'était un ou deux ans après ma sortie de la Comédie Française et m'arrive ce cadeau merveilleux par Jean-Marie Villégier. Et avec Jean d'Autremet dans Argan. Et alors, cette découverte.
C'était pas pour chanter.
C'était pas du tout pour chanter. Il y avait la pièce, et puis il y avait les divertissements, et puis un orchestre merveilleux au Châtelet, mais un enchantement. Mais puis en plus, je découvrais le milieu des musiciens et des danseurs. Parce qu'il y avait Rie et Danserie aussi qui faisaient toute la partie des divertissements. Oui, c'était absolument splendide. Rien que de l'entendre, je suis très émue.
Voilà, en tout cas, oui, un souvenir musical, vous voyez, vous en avez fait plus que vous ne pensiez.
Mais oui, mais là, je ne chantais pas, heureusement pour tout le monde.
Et donc, Christine Murillo, oui, vous le disiez à l'instant, vous avez quitté la Comédie Française en 88.
Oui, oui.
Alors là, vous n'avez pas fait comme votre sœur, qui est restée beaucoup plus longtemps.
Oui, mais alors...
Pourquoi vous avez eu besoin de partir ?
Alors, ça s'est décidé, comme on dirait d'un commun accord. C'est-à-dire que comme je ne voulais pas vraiment jouer ce qu'on me proposait,
voilà,
et que j'avais eu la proposition de Konchalovsky pour jouer dans La Mouette, et puis de Bérangère Bonvoisin pour jouer Pionnier à Ingolstadt à Nanterre, ça faisait beaucoup de congés à l'extérieur. Et on m'a dit, faut choisir. Et puis, ils ont un peu choisi pour moi. Et ça faisait déjà 10 ans que j'étais pas sociétaire, que je finissais sociétaire. On peut s'arrêter à 10 ans, les nouveaux statuts, allez hop.
Ça vous a permis d'élargir énormément, évidemment, votre répertoire, de faire quantité de pièces au fil du temps, et avec un succès qui ne s'est pas démenti, puisque effectivement, dès vos débuts, si j'ose dire, après Comédie Française, La Mouette a été très remarquée et couronnée par un Molière. Oh,
quelle merveille, quelle merveille. On l'a joué 2 ans de suite avec 2 distributions. Et il y avait Juliette Binoche et André Dussolier. Et puis l'année d'après, c'était Clotilde de Bézère et Nils Arestrup. Mais ça, c'est inoubliable. Et puis la chance d'avoir un Molière là-dedans.
Alors, on va bientôt revenir à Carton, mais quand même, j'évoque rapidement quelques autres spectacles. Par exemple, très joli, De Petites Dames vers le Nord, avec votre sœur Catherine Salvia.
Absolument. Là, c'était vraiment une pièce à nous deux, à bras-le-corps, écrite par Pierre Note, montée par Patrice Kerbrat. Vraiment de la joie, du bonheur. Et là, on chantait, pour le coup. Alors voilà. Là, mais on chantait comme deux sœurs, chantent ensemble. Mais quand même, les chansons étaient ardues.
Et pour vous aussi, qui aimez bien l'humour, et parfois même l'humour un peu cruel, il y a eu la chronique d'une haine ordinaire, de Des Proches,
déjà
en 2011.
Que je ne dise pas de bêtises, ça c'est le Des Proches avec Michel Didi, mais il ne faut pas que je le confonde avec Vialat, que j'ai fait après Des Proches, avec le même metteur en scène que Pauline et Carton, Charles Torchman. Mais c'est Michel Didi qui nous a mis en scène avec Dominique Valadier, un souvenir inoubliable. D'ailleurs, quand je le jouais, je disais, je peux jouer ça jusqu'à ma mort. Donc... reprenons-le comme on veut.
Et puis encore, alors tout près de nous, j'en cite encore un parce que c'est un succès énorme, c'est La Mouche.
Ah oui.
Avec Christian Heck et Valérie Le Sort, qui sont venus tous les deux d'ailleurs dans cette émission pour leurs activités à l'Opéra Comique.
Et il y en a. Oh là là,
Là, vous avez un succès fou aussi dans La Mouche, encore tout récemment, au mois de février, puis ça va reprendre l'année prochaine, je crois.
Mais oui, pour le coup, on refusait du monde, on reprend en décembre 25. Mais vous oubliez aussi une qui m'est chère à mon cœur, si c'est pas prendre trop de temps, c'est Dis à ma fille que je pars en voyage, par Denise Chalem, qu'on a joué au Rond-Point et au
une
Théâtre
femme
de l'Oeuvre.
En prison.
Et ça, absolument phénoménal. Pour quelqu'un qui n'avait pas envie de jouer des soubrettes, j'étais servi. J'avais des rôles, mais en or.
Voilà quelques moments de la vie de Christine Murillo, qui est en ce moment toujours à la Scala avec Pauline et Carton. Et justement, on va retrouver Pauline et Carton avec cette chanson qui a, je crois, une certaine importance dans le spectacle. Alors, désolé, c'est un enregistrement de 1925, c'est pas encore de l'électrique, faut un peu tendre l'oreille, mais c'est quand même Pauline Carton dans une opérette de Maurice Yvain.
Une panthère se doit être au courant. Toutes les panthères chantent la police pour que votre œil soit pénétrant. Il faut rester l'œil en coulisses, on vole son œil au bâton. Et ce qu'on voit, c'est des matins. Par le trou, en regardant par le trou. de la serrure, on voit des choses comme tout. Par le trou, on sait tout façon très sûr. C'est par le trou qu'on connaît tout. Là, ils n'ont pas l'air de saouler. La petite a de l'inexpérience, mais le petit a l'air décalé. Il lui fait voir son influence. J'avais pas vu ça depuis 20 ans. Ça m'a paru exorbitant.
Comment et de quelle façon vous avez été amené à chanter votre première chanson? Voilà.
Ma première chanson? Oui. Vous savez, monsieur, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de choix dans mes chansons pour la bonne raison que je chante à peine. Je chante comme une corde à puits, vous n'ignorez pas ça.
Non,
mais enfin, ma première chanson, c'était dans une pièce de Labiche qui s'appelle « Maman Sabouleux ». Je n'avais pas tout à fait 6 ans et je chantais en arrivant en scène dans le rôle de la petite fille de Maman Sabouleux. Je chantais quand je fus bien sage toute la semaine, que dans la soupe j'ai pas mis trop de sel. Maman Sabouleux le dimanche me mène dîner aux pompières éternelles. J'étais tellement petite que je m'accoudais sur le litre de vin rouge que j'apportais en scène comme accessoire.
Oh là là, et les spectateurs étaient contents, ils étaient chauds.
Oh, comment qu'ils étaient chauds? Ils étaient bouillants, ils étaient torrides. Pensez donc, c'était nos parents.
Oh.
Mon père, ma mère et puis ceux des autres acteurs, ça se passait dans l'antichambre de chez moi.
Oui. Mais alors, votre première chanson en tant que chanson professionnelle, si j'ose dire.
Oh, c'est dans une opérette de Maurice Yvain. Une délicieuse opérette, pas sur la bouche. Yvain, qui a fait pour cette opérette une partition adorable, avait eu la gentillesse, la bonté, la générosité de me faire un petit air pour moi toute seule. J'arrivais en concierge et je chantais par le trou, par le trou, par le trou de la serrure. C'était très gentil, mais j'avais une peur horrible. Vous savez, chanter derrière un piano, ce n'est rien. Mais chanter avec des instrumentistes et un chef, des gens qui vont leur petit bonhomme de chemin, sans penser à vous attendre quand vous vous trompez, c'est épouvantable. J'étais tellement émue que le jour de la générale, en tramway, j'ai regardé fixement une dame que je ne connaissais pas, qui était en face de moi, et je lui ai dit, madame, ce qui a des frayons, n'est-ce pas, c'est l'orchestre.
Voilà.
Cette dame a paru saisie, et je suis descendue de tramway. Et le soir, mon Dieu, ça s'est bien passé, je vais vous dire pourquoi. Les spectateurs avaient entendu pendant 3 actes des gens qui chantaient juste. Je suis arrivée, j'ai chanté très faux, ça les a soulagés, ça les a amusés, mon Dieu, ils ont été gentils.
Et vous en faites un très joli succès.
Oh non, oh non, non,
non, non,
mais ils ont ri, ils se sont dit, pourquoi est-ce que cette femme chante? Voilà tout.
Voilà tout. Eh bien, madame Pauline Carton, vous ne vouliez pas nous donner d'interview. Vous ne nous avez pas donné l'interview, n'est-ce pas?
Non,
bon, nous sommes bien d'accord.
Nous sommes d'accord.
Mais enfin, nous sommes vraiment très contents quand même d'avoir de si jolis souvenirs.
Vous êtes infiniment gentil. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Voilà un document de 1939 que j'ai retrouvé pour vous,
ah, Christine
Murillo.
Je ne connaissais pas, c'est magnifique, mais, magnifique.
On se demande d'ailleurs parfois, quand on l'écoute tellement extravagante avec cette voix, si elle ne joue pas un peu Pauline Carton.
Qui sait, là, elle parle vite, elle a l'air pleine de son sujet. Non, elle a l'air pleine de son sujet. C'est drôle, la dame dans le tramway, c'est formidable.
Voilà.
C'est formidable.
Alors, en tout cas, oui, le trou de la serrure, cette chanson d'opérette, oui, vous la fredonnez sur scène et vous l'évoquez.
Oui, je joue un tout petit bout. Et en plus, comme c'est moi qui ai choisi, avec Charlie Tanchman, les extraits, c'est sûr que Pauline Carton est beaucoup plus subversive que moi. Elle a beaucoup plus de plaisir à chanter des choses un petit peu graveleuses. Moi, j'arrête à ma limite et les gens font la suite.
Les gens devinent. D'accord.
Voilà.
C'est très bien. En tout cas, voilà, ce personnage est très étonnant, hein, Pauline Carton. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'avait eu qu'un seul homme dans sa vie. Bon, ça, c'est peut-être pas si étonnant que ça, après tout.
Ah, quand même,
pas.
Pendant 50 ans. Hein.
Mais surtout, cette femme qui a joué toute sa vie des concierges, des bonnes, etc., et qui passe pour une espèce de figure comme ça, populaire, en fait, était une intellectuelle et une bourgeoise.
Incroyablement intellectuelle. Je crois que quand, dans les dernières années de sa vie, où elle a habité pratiquement tout le temps à l'hôtel, elle avait une bibliothèque, je crois qu'elle avait 3000 livres dans le grenier de l'hôtel Saint-James d'Albany. Oui, elle était la conseillère de Sacha Guitry.
Son père était un grand ingénieur saint-simonien, etc. Enfin, il y a vraiment une famille...
Bourgeois. Mais sa mère était quand même très progressiste. Elle lui a donné des merveilleux conseils pour mener sa vie seule et n'avoir besoin de personne. Ah oui.
Et alors justement, donc parmi ces traits effectivement qui m'avaient frappé très tôt sur Carton, il y a le fait qu'elle a toujours vécu à l'hôtel.
Toujours non, mais en tous les cas, les dernières années de sa vie, oui. Au moins, je dirais, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose genre 40 ans ou 30 ans, c'est inimaginable. Elle avait une allergie absolue à la, au ménage.
Voilà, c'est ça.
C'est peut-être là qu'on se retrouve. Mais elle aimait jouer les bonnes. Alors que moi, je dis, vraiment, j'aime pas. Mais elle aimait les petits rôles. Moi,
elle aimait les petits rôles,
plus,
oui.
Plus conséquents. Et elle aimait les petits rôles. Et elle le dit, et on le dit ça d'elle, qu'elle jouait son petit rôle et que son plaisir, c'était, une fois qu'elle avait fini, elle courait dans la salle pour écouter les autres. Elle avait le théâtre.
Elle avait la curiosité du théâtre au-delà d'elle-même. Ah, oui.
Elle aimait l'odeur du théâtre, elle aimait les gens de théâtre, elle aimait tout ce que le théâtre pouvait dégager. Elle prenait, quoi. Oui, oui.
Et donc, plus tard, elle a écrit deux livres de souvenirs qui sont un peu la base, vous l'avez dit, de votre spectacle, en partie. En tout cas,
oui. Les théâtres de carton, c'est plutôt la partie cocasse des tournées et tout. Le deuxième livre, elle l'a écrit un peu plus tard, ça s'appelle Histoire de cinéma, et c'est plus, comme son nom l'indique, sur le cinéma. C'est un tout petit peu moins cocasse, mais il y a deux, trois bricoles que j'ai eu plaisir à choper dedans, parce que
elle est aussi
parle de
drôle.
Gens qu'on connaît vachement bien, de Bourville, de Fernandel, de Michel Simon, enfin, elle a des anecdotes de cinéma... peut-être moins croustillante que celle qu'elle a vécue, parce que c'était une époque de tournée où vraiment tout pouvait arriver. Les tournées, c'était pas soyeux. Hein.
Mais elle a le regard drôlatique et parfois même un petit peu méchant, non ?
Ah, alors oui, était-elle méchante ou
vous dites que vous faites
leurre.
Une grimace avant d'entrer en scène pour vous mettre bien dans le personnage.
Oui, moi je serais plutôt la partie trop lisse de Pauline Carton. Donc il est bien dit. Les merveilleux régisseurs qui m'ouvrent la porte savent qu'il faut me dire avant d'entrer en scène, méchante, parce que sinon, alors si je rentre comme je suis là et que je parle, eh ben on m'entend, je suis gentille et je dis des choses positives, mais si je plisse le nez, d'ailleurs, essayez chez vous, vous verrez, n'importe quoi de positif devient suspicieux.
Ah, c'est bien.
Et là, je plisse le nez, vous entendez, tout ce que je dis reste sujet à caution.
Un peu plus acide,
oui.
Tout d'un coup. Oui. Michel Simon, il a un rôle important dans la vie
dans sa vie,
Carton.
Ils ont quand même pas mal
travaillé
tourné.
Ensemble,
ils ont tourné
oui.
Ensemble dans des films de Marcel Lherbier ou dans un film. Elle jouait la femme de Michel Simon. Mais,
et vous,
sinon,
vous l'évoquez d'ailleurs sur scène
oui,
parmi
oui,
d'autres
oui, oui,
personnages.
Ils ont chanté ensemble parce que Michel Simon, il chantait de son côté aussi.
Bien, ben justement,
et pas
tiens,
que dans des films. Hein.
Pour vous faire plaisir, j'ai ressorti cette chanson. C'est dans l'opérette Le Bonheur, Mesdames, en 1934. C'est Michel Simon qui chante. Elle était pas tante.
Elle était pas tante. Cette petite femme-là, j'adore.
Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal, nous fîmes connaissance, elle était charmante et mince comme un fil. De grands yeux rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence. Elle était pétante, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sort cela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je me souviens. Malgré le temps passé, je revois devant mes yeux son air enfantin, ses gestes gracieux. Et mon cœur bien vite la reconnaîtra, y en a pas deux comme ça. Cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'affaires, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, y en a pas deux comme ça.
Michel Simon, pour nous permettre de faire une grosse économie, vous voulez bien tourner deux rôles dans ce film?
Avec plaisir.
Comme ça, vous serez doublement admirable. Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à 2h avec une robe noire et une veste de laine.
Vous avez besoin de rien d'autre?
Si, de votre talent.
Voilà, c'est un des merveilleux génériques de Sacha Guitry.
Extraordinaire.
Dans lequel il présente toujours tout le monde, pas seulement les comédiens, les techniciens, les musiciens.
Oui. Sacha Guitry, on a l'impression qu'il parle en alexandrin tout le temps.
Tout le temps.
C'est extraordinaire. Il a une phrase et on sait que c'est Guitry, même sans savoir. C'est vraiment un style merveilleux.
Je disais d'ailleurs tout à l'heure, à propos de Pauline Carton, est-ce que là, elle joue Pauline Carton? Mais Guitry, on ne sait jamais quand il est Guitry ou quand il joue Guitry. Hein, y a pas
on n'a que le plaisir de l'écouter. Quoi.
De l'écouter. Présenter donc ici La vie d'un honnête homme, un de ses très beaux films de la fin de sa vie, avec donc Pauline Carton et Michel Simon. Parce qu'il faut le dire, alors Guitry, cet immense auteur et cinéaste, avait une grande amitié pour Pauline Carton, plus beaucoup d'admiration, et il utilisait d'une certaine façon ses talents pendant une grande partie de sa vie. Hein.
Elle a été une des premières casting
directrice de casting, comme on dirait aujourd'hui.
Directrice de casting, mais oui, l'ancêtre de Margot Capelier, pour ceux qui connaissent Margot Capelier, qui a été une conseillère en distribution avec tant de metteurs en scène, c'est elle qui conseillait Guitry. Elle avait une grande connaissance de tout et pouvait le renseigner, je suppose que dans...
Il l'envoyait au théâtre d'ailleurs, parce que lui n'avait pas le temps d'y aller, et quelquefois, et paraît-il, il envoyait Pauline voir les pièces pour repérer les acteurs.
J'ai pas tout lu sur les rapports de Guitry et Carton, mais visiblement ils se vouaient mutuellement une admiration et une affection très grande. Oui,
très grande, voilà, donc c'est important de le dire. Finalement, si les films de Guitry sont si réussis, ont des si belles distributions, c'est en partie grâce au talent et à la passion du théâtre de Pauline Carton.
Ah, certainement.
Pauline Carton, donc, c'est pour vous Pauline et Carton. Vous la divisez en deux?
Oui, le titre est venu comme ça parce que c'est à la fois sa manière d'être toute bête et puis sa carrière. Donc voilà.
Puisque ça part d'écrits plutôt intimes d'une certaine façon. Oui,
voilà. tout à fait.
Et le spectacle est donc construit donc autour de ces moments de sa vie, de ses souvenirs. Mais
ben c'est comme si elle venait à l'âge de 89 ans.
Âge auquel elle a pris une décision importante d'ailleurs, à 89 ans.
À 80 ans, on lui a proposé d'être une diseuse. Alors elle venait au théâtre et puis elle lisait ses mémoires où elle disait des trucs. Voilà. Et puis moi je fais comme si
c'était elle qui revenait.
Voilà, mais je la joue pas, je l'imite pas. Je l'incorpore à moi-même, je dirais. C'est une espèce de béchamel.
Murillo Carton.
Voilà, Murillo Carton. Je ne sais pas, c'est aux gens de juger. Mais j'ai tellement d'affection pour elle. Et le spectacle s'est tellement construit autour d'un vide-grenier mental et même pratique. Les objets que j'ai me sont très familiers et sont tout à fait de l'époque de Pauline Carton. Donc j'ai l'impression de baigner, en tous les cas, de ne pas la trahir.
Voilà, vous arrivez avec quelques petits accessoires, je crois, au début.
Oh, très peu. Charlie m'en a fait un peu abandonner quelques-uns, mais j'ai la cafetière de ma marraine, j'ai la gourde de ma sœur, j'ai un petit carton d'abord, je ne sais pas d'où il est, mais on peut pas. Très difficile à trouver cette taille et cette ancienneté. Il est absolument parfait. J'ai des tout petits accessoires, des petites cloches, des petites clochettes. C'est une brosse, voilà, une table de camping, un petit chapeau.
Et donc vous faites des allusions à, oui, à tous ces personnages qu'elle a rencontrés, qu'elle évoque.
Ceux qu'elle a côtoyés, ceux avec qui elle a joué, ou ceux tout simplement qu'elle a vus sur scène.
Mais alors, comment est-ce que Julien Clerc arrive là-dedans ?
Eh bien, il se trouve qu'elle a vu un concert de Julien Clerc. J'ai lu qu'elle avait été à un concert de Julien Clerc en Suisse et qu'elle avait beaucoup aimé. Et puis un matin, vers 6h du matin, où les idées sont les meilleures, j'ai sursauté en me disant, mais les Palais Tuvier, Julien Clerc aussi en a
chante
parlé alors.
Les Palais Tuvier.
Elle a vu Julien Clerc, elle a forcément entendu la Californie de Julien Clerc.
Ou les donc, questions des Palais
voilà,
Tuvier.
Voilà, les Tuvier ont été un trait d'union entre les deux. Tout est bon à prendre pour un spectacle.
Elvire Popesco ?
Alors, il y a Elvire Popesco, il y a...
Jean Marais.
Il y a Jean Marais, il y a un tout petit peu Cocteau, il y a qui d'autre ?
Ah ben, il y a Bourville. Bourville, on va l'écouter justement. Pourquoi elle évoque Bourville ?
Alors, elle évoque Bourville à un moment où elle dit que ce qu'on peut entendre des gens normaux dépasse les espérances. Voilà, c'est les remarques que les gens dans la vie peuvent avoir sur le métier de comédien.
Et bien justement, on va l'écouter Bourville tout de suite. J'ai trouvé une petite chanson très amusante. Je la dédie d'ailleurs amicalement à Frédéric Mitterrand qui adorait cette chanson. On l'avait écoutée plusieurs fois ensemble. Ça s'appelle « Pour sûr, qu'est-ce que tu dis ?» C'est Bourville qui part avec une jeune fille qui est sourde et dont il est amoureux.
Ah, j'adore.
Voici un beau tango duo. C'est une histoire assez malheureuse entre lui et elle. Parce que lui, il est frivole, et elle, elle s'en est bien perçue qu'il était frivole. Mais comme lui, au fond, il est malheureux d'être frivole, il veut lui expliquer, mais elle, elle comprend pas parce que elle est sourde. Alors elle lui dit toujours, qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que c'est difficile, parce que il faut que je fasse la voix de lui et la voix d'elle. Mais je vais le faire quand même, parce que quand on est artiste, il faut faire tous les genres. J'ai vu tes yeux de braise au pied d'une meule de foin. Tu revenais des fraises et moi de l'herbe au lapin. Je t'ai dit, il fait chaud, tu me répondis pour sûr. Tu m'en avais dit trop, ça m'a fait une morsure. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai pas offert de fleurs. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Mais je t'ai montré mon cœur. Tu l'as pris dans tes petites mains légères, comme un petit papillon de bruyère. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as pris sans chercher. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Tu l'as vite déniché. C'est vrai que toi tu savais bien que mon cœur je l'avais sur la main. Mais comme je suis frivole, j'ai un cœur d'artichaut. Sous la brise il s'envole, je sais que ce n'est pas beau. Les feuilles une à une, en les voyant tomber, pour comble d'infortune, tu me les as piétinées. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Que mon cœur est en deuil. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? J'ai pleuré sur mes feuilles. Je n'y peux rien, j'ai l'âme trop généreuse et un cœur pour les familles nombreuses. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? C'était clair comme du verre. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Fallait voir à travers, t'es sourde. Mais toi, tu m'as tout piétiné. Tu m'en as fait du verre pilé. Toute ma raison s'égare, j'enfante la douleur. Quelle sensation bizarre quand on n'a plus de cœur. Ça me fait un grand vide et de mes deux beaux seins, je n'ai plus qu'un simple acide et une marque à sein. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? C'est l'histoire de mon cœur. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Qui finit dans le malheur. Notre amour est une barque en détresse. Va falloir lancer le SOS. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Il fallait que ça arrive. Pour sûr, qu'est-ce que tu dis? Je vais à la dérive. Adieu, la vie et l'aventure. Oui, mais heureusement que fluctuate n'est que mergiture aussi.
Qu'est-ce que tu dis?
Toi, si jamais tu me redis qu'est-ce que tu dis, je vais finir par te le dire, moi, tu vas voir.
Mesdames, mesdemoiselles, mes yeux, mesdames, mes yeux, mes œufs, mes dieux, mes... mesdames, messieurs, mesdemoiselles, mes... cher public. Je suis peu ma fière, y aller, refaire un miracle, faire un miracle, faire un miracle. Habitué au contact du public, aussi ai-je mis d'avance tous mes soins sur ces feuillets à quelques compliments qui, je l'espère, seront pour les...
Voilà, d'un humoriste à l'autre, c'était d'abord Bourville, bien sûr, et ensuite Pierre Repp aux Trois Baudets, quelqu'un que vous admirez beaucoup.
C'est-à-dire que dans cette espèce de vide-grenier qui me permettait de remonter avec toute l'époque de Pauline Carton, moi j'ai toujours adoré Pierre Repp, et puis on est parfois
oublié,
Pierre Repp sans le vouloir, et là je me suis dit, je vais en caser deux, trois à sa mémoire, et très modestement, parce que là je le réécoute, c'est inimitable, tellement il est merveilleux.
Donc, bafouillement, les trous de mémoire.
C'est extraordinaire. Alors, j'en ai deux, trois dans le spectacle que j'ai glissé. Et c'est plus une évocation, mais c'est comme mes imitations. C'est comme Tata Janine qui se lève à un mariage et qui dit « Je vais vous faire Sarkozy ». Voilà, moi, j'imite comme je peux. C'est les gens qui comprennent et qui s'amusent de voir que c'est pas terrible. Et j'imite Pierre Repp. J'espère que ça leur donnera envie d'écouter encore plus Pierre Repp en vrai.
Et alors, les trous de mémoire, ça joue un rôle aussi dans le spectacle.
C'est formidable. Elle a eu le malheur de dire qu'elle perdait la mémoire. Alors moi, c'est trop bien, quoi, parce que et je suis très fier parce qu'il y a des gens. Le premier trou de mémoire que j'ai, les gens
croient
que c'est moi.
Ils sont embêtés.
Ah oui, ils sont embêtés pour moi. J'adore. C'est vraiment prendre les gens comme ça, pas arverge. C'est la première fois que je joue toute seule. Je croyais que ce serait poignant et que j'étais sûre que je voulais pas. Là, par miracle, je tombe sur ce qu'il fallait que je joue toute seule. Je ne crois pas que je rejouerai toute seule, parce que dans la loge, c'est trop poignant d'être seule, c'est pas drôle.
Seul,
mais
au théâtre.
Sur scène, c'est vrai qu'il y a un échange qui est inoubliable.
Voilà, c'est donc en tout cas en ce moment, toujours à la Scala, le samedi et le dimanche, deux fois le samedi, une fois le dimanche.
Oui.
Ça fait des week-ends bien remplis.
Oui, mais tout le reste de la semaine, j'y pense.
Et j'en profite, puisqu'on évoquait Pierre Repp, ses jeux avec le langage, pour rappeler aussi, j'ai cité quelques-unes de vos pièces tout à l'heure, Christine Murillo, mais il y a aussi un livre, Le Baleinier, dictionnaire des tracas quotidiens, paru en 2003 et qui a donné lieu à des spectacles en trio avec Jean-Claude Le Guay et Grégoire Ostermann.
Exactement.
C'est quoi les tracas quotidiens ?
Alors, c'est pas quotidien. C'est le dictionnaire des tracas de tout le temps, mais pas forcément au jour le jour. C'est même au-delà de la mort. C'est venu que on se voyait tous les soirs à dîner. Près le Turbin, et qu'on a échangé quelques tracas, c'est devenu un livre, et puis quand le livre est paru, eh bien Jean-Michel Puif et Jean-Michel Ribes ont eu la bonne idée de nous dire, eh ben ça nous intéresse, et ce sont devenus, à chaque fois qu'on faisait un nouveau tome, eh bien ça donnait lieu à un spectacle, Xu,
voilà,
objet
qui a
bien
eu beaucoup
rangé,
de succès.
Qui veut dire objet bien rangé, mais où ? Oxu, qui veut dire objet qu'on vient enfin de retrouver et qu'on repère aussitôt, et Uxu, urne dont on ne sait pas quoi faire une fois les cendres dispersées.
Voilà quelques-uns des tracas donc, que vous venez de résumer avec les titres.
Exactement.
On peut en citer d'autres encore de ces
Boulbeau, ce camion qui vous masque systématiquement le panneau de sortie de l'autoroute. C'est très varié, il y a du restaurant, il y a de la route, il y a même du théâtre au bout d'un moment.
Ça recommencera un de ces jours, cette série ?
C'est-à-dire que là maintenant, les quatre tomes ont été réunis en un livre de poche, donc maintenant on a vraiment les œuvres complètes. Et puis, si jamais le Seuil veut nous recontacter, avec joie. Nous, on a accumulé les tracas depuis le dernier tome. On a ce que vous voulez.
Vous avez la liste, très bien. En tout cas, Christine Murillo. Avant de terminer l'émission, j'ai encore un petit document. Je me dis que ça vous ferait plaisir. Et puis, ça fera plaisir aussi aux auditeurs qui découvrent Pauline Carton. Là, c'est encore un enregistrement d'un disque où elle donne une leçon de chant à une jeune fille qui va se marier. Et c'est assez irrésistible.
Allons, commençons. Savez-vous, ma petite Hélène, puisque vous vous mariez dans deux jours, que c'est aujourd'hui ma dernière leçon pour clôturer harmonieusement mes cours. Ce sera une leçon de musique. On dit que tu te maries. Mais quelle drôle de manie ont toutes les jeunes filles de vouloir se marier. J'aurais pu, moi qui vous parle, mais j'ai fui la promiscuité impudique des intimités conjugales, la brutale révélation de la nuit de noces. quand je dis brutal. Forcené. Tous les hommes sont des forcenés. Ah, pouah, comme dit Madame Georges Sand. Vous savez, ma chère petite, on m'a certifié que souvent, le soir du mariage, le nouvel époux ne prenait même pas le temps d'ôter ses souliers vernis. Ce qui vaut peut-être mieux s'il a des oignons à l'orteil. Quoi, monsieur de Lamartine lui-même avait des cordes aux pieds. Ah, ma pauvre petite enfant, tout cela est bien triste. Ah ! Oui, moi, je suis restée demoiselle. Et bien contente, croyez-moi, bien contente de l'être. Douleur, trahison, vengeance. Ne vous attristez pas, fillette. Mon ex-fiancé se maria plus tard. Oui, et j'ai su qu'il avait rendu sa femme. Assez, assez malheureuse. Je ris. Au fait, où irez-vous en voyage de noces? À Venise. Ah, Venezia la Bella, chef-lieu de province. 152 000 habitants, les pigeonneaux de Saint-Marc, les princes russes qui épousent par amour, de vieilles chanteuses pleines aux arts, le pont des soupirs. La reine Gina, c'est la reine d'Italie, li. N'écoutez pas ça, mon enfant, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. L'Afrique du Nord est tentante aussi, avec ses arabes farouches, qui vous enlèvent, vous pressant dans leurs bras nerveux, au galop de leurs petits chevaux pleins de tendresse. Non, enfin, je veux dire le contraire. Buenos Aires, au soir embaumé. Sous le ciel de l'Argentine, où l'on meurt de trop s'aimer, dong. Brive la Gaillarde est bien jolie aussi. Et puis le retour est agréable, vous direz, j'étais là, telle chose m'advint. Mais dites-moi, que chanterez-vous à votre époux, le grand soir, pour le mettre en train? Ah, fasse le ciel, que ce ne soit pas la vieille chanson, tendre et mélancolique, qui a été la romance de toute ma vie. Jadis, je possédais ton cœur, plus d'amour et plus de bonheur. Je suis loin de ton souvenir et je n'ai plus qu'à mourir.
Voilà les irrésistibles leçons de chant. C'est un peu plus long. Il y a deux phases de 78 tours. Là, on a écouté la première. Oui, ça, Christine Murillo, ça vous plaît?
Oui, ça me plaît infiniment. J'ai hésité à le mettre dans le spectacle, mais c'est pas un spectacle de chansons. Puis
bah non.
Là, il faut quand même de la voix. Il faut aller très haut. C'est pas mon cas.
Oui, elle dit qu'elle chantait très mal, mais elle chantait bien mal.
Mais elle dit qu'elle était moche. Elle était pas moche. Elle disait qu'elle chantait peut-être pas très bien. Moi, je trouve qu'elle chante très bien. Donc, peut-être que ça l'amusait de se déprécier. Je ne sais pas.
En tout cas, voilà, c'est à l'affiche à la Scala depuis déjà maintenant plusieurs mois. Et ça va continuer jusqu'au mois de juin, ça marche très bien.
Et même à la rentrée,
et
même à Avignon.
Et à Avignon voilà. Cet été.
Voilà, donc ça reprend jusqu'à la rentrée aussi. Non, j'ai de la chance. J'ai l'impression que je disais ça du déproche. Mais là, maintenant, je peux tout jouer jusqu'à ma mort. Tout me plaît. Tout ce qui m'arrive me plaît. J'ai une chance. La Mouche et Pauline et Carton, là, franchement...
La Mouche, ça reprendra d'ailleurs l'hiver.
Oui, oui, en 25, voilà, on a le temps de se revoir.
En 25. Mais Pauline Carton, en tout cas, elle vous doit une fière chandelle parce qu'on la redécouvre grâce à vous aujourd'hui. Et peut-être qu'après, les gens vont voir les films de Guitry, etc.
Mais je l'espère, en tous les cas, tout est bon pour revoir des trucs bien, quoi.
Mais alors, qu'est-ce que vient faire dans ce spectacle? On va finir avec cette chanson, je sais que vous l'aimez beaucoup. Aline, du regretté Christophe, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Alors, pourquoi je disais tout est de Pauline Carton de A jusqu'à Y? Eh bien, mettons que pour aller jusqu'à Z, j'ai bien comparé les dates. Et puisqu'elle aimait bien Julien Clerc, je me suis dit, il n'y avait aucune raison pour qu'elle n'aime pas Christophe. C'est arrivé pendant une répétition. J'ai commencé une phrase comme si je vais vous la faire. C'est j'avais des... Alors, en fait, la phrase que je veux dire, c'est « j'avais déjà joué dans des films parlants » et en fait, ça commençait comme « j'avais dessiné ». Alors, avec Charlie, je lui ai demandé la permission, mais « j'avais dessiné sur le sable ». Et puis, est venue évidemment Pauline pour qu'elle revienne. Voilà. Petit gag.
Ah bah quand même, c'est pour Pauline,
petit
voilà.
Petit souvenir d'enfance où moi j'ai entrevu de près Christophe vers 66-67. Dans la mesure où Pauline est morte en 74, eh bien je me suis dit que rien ne l'empêchait d'avoir aimé Christophe.
Voilà, donc Pauline, la fameuse chanson de Christophe avec Aline, avec laquelle on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Christine
Murillo. Merci de votre invitation, je suis
plaisir
très touchée.
De parler avec vous.
D'être dans une émission musicale.
Où j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié.
C'était Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurt préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Cédric Châtelus, réalisation Doria Zenin. Et la semaine prochaine, eh bien, mon invité ce sera Renée Auffant, cantatrice et directrice d'opéra qui viendra nous parler de sa très riche carrière. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sur France Musique, vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.